L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Jean-François Rode, bonjour.
Bonjour Christophe.
Nous recevons aujourd'hui Isabelle Le Bourgeois pour son livre « Vivre avec lire et parer » aux éditions Albin Michel. Isabelle Le Bourgeois, bonjour.
Eh bien bonjour monsieur.
Vous êtes religieuse, psychanalyste, aumônier en prison, visiteuse d'hôpitaux psychiatriques.
Non, je ne suis plus. Bon, je ne suis plus aumônier de prison.
Mais vous avez une expérience
de. Oh là oui, longue, mais je ne le suis plus.
Alors dans ce jour de l'Ascension, puisque nous sommes le jeudi de l'Ascension, le Christ quitte la terre, emporte-t-il avec lui ou laisse-t-il derrière lui lire et parer ?
Oh, mais c'est toute l'énigme de l'affaire. Donc vous m'avez lu, et vous voyez bien qu'il part avec.
Oui, oui.
C'est
oui,
juste, oui. Moi,
c'est
quelque chose...
C'est un événement très important de votre
Ah, pour moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, de joie, et puis, j'allais dire, même de complicité avec lui à écrire ça. C'est le Christ que je connais.
14 chapitres qui commencent par une rencontre, toujours. Yvette, Héloïse, Althéa, Malo, témoins de souffrances, de difficultés. On les rencontre, est-ce qu'on est en empathie avec eux ou pas, mais en tout cas, vous nous les présentez, et à partir non pas de ces cas pour en faire des cas cliniques, mais au contraire des cas d'humanité. Et on est dans l'humanité en barre pour nous apporter des choses sur notre irréparé à nous. Je vous cite, « Force est de constater combien nous avons placé Dieu responsable de tout et l'avons disqualifié pour avoir fait mal. Il est trop puissant ou insuffisant, trop là ou pas assez. Bref, il n'est jamais à la bonne place. Cela manifeste-t-il une déception de part et d'autre, comme s'il y avait quelque chose à rattraper, une dette à satisfaire ? Comment recentrer Dieu dans nos vies ou comment nous devrions-nous nous recentrer par rapport à Dieu ?
Oh, ça c'est une... Il n'y a pas de recette, on va dire. Je pense qu'il faut quelquefois une vie entière pour sortir de cette impression qu'on lui doit quelque chose.
Ouais.
Combien de parents nous disent « Avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dois bien ça. » Voilà. On est tout le temps dans cette opération, j'allais dire, un peu dette contre dette. Hein. Voilà, donc Dieu n'échappe pas à cette affaire. Il faut beaucoup de temps pour se mettre dans la gratuité de l'amour.
Et alors, vous le dites notamment par rapport au pardon. Sur le pardon, pardonne-nous comme nous pardonnons. Très vite, nous savons que nous n'y arrivons pas. Et nous ajouterons à la lamentation d'être aussi mauvais, celle de nous enfermer dans une mortifère culpabilité. Ainsi, nous perdons de vue ce que représente le pardon.
Eh oui, le pardon, on n'y arrive pas. Et alors ? Ce que je veux dire, c'est que c'est là où c'est terrible. Parce que on imagine que on va arriver à tout faire. Qu'on va arriver à un idéal de nous-mêmes, à satisfaire, j'allais dire, oui, cet idéal qui habite en nous, bien souvent. Et puis on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas. C'est vivre avec cet écart, vivre avec cet irréparé, vivre avec quelque chose qui, de toute façon, mesure l'écart qu'il y a entre ce que nous voulons être et ce que nous pouvons que être.
Alors vous venez de le dire, il n'y a pas de recette.
Il n'y a pas de recette.
Mais la promesse... Écrivez-vous, je la reçois dès le premier chapitre de la Genèse. Dieu vit que cela était bon. Et un peu plus loin, vous écrivez, la lecture des textes ne m'entraîne pas vers une compréhension de la création attachée par la seule faute de l'homme, auteur d'un originel péché, mais bien plutôt vers une création qui se cherche, ne se trouve pas d'emblée, hésite, balbutie.
Ah oui, enfin, pour moi, alors c'est très important, c'est un petit peu comme un morceau de musique. C'est-à-dire que, comment dire, y a... la musique, ça ne finit jamais, d'une certaine façon. On démarre, il faut bien le clôturer quelque part.
Mais par un point d'orgue.
Mais par un point d'orgue, très bon. Voilà, et en fait, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que nous sommes ensemble, j'allais dire, main dans la main, cœur à cœur, presque avec Dieu pour créer ce monde. Et moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant que quelque chose de tout donner et que d'ailleurs on nous reprocherait de perpétuellement détruire. En fait, il y a dans le mouvement écolo quelque chose comme ça d'extrêmement culpabilisant. En fait, on fait pas bien, on détruit. Bon, au lieu de nous encourager et de dire bon, on fait ce qu'on peut et on va essayer de mettre ceci ou cela, c'est toujours, toujours dans le passé. Mais de toute façon, nous sommes insuffisants. Et alors ?
Ce n'est pas dans votre livre. Parce que c'est très personnel, la question que je vous pose. À quel moment vous avez compris que la culpabilité était une pollution de l'âme ?
Il y a très longtemps. en fait, il y a très longtemps, mais en même temps, je ne voulais pas l'admettre comme ça. Et je pense que la prison, enfin, moi j'ai fait 14 ans de prison, si je peux dire comme ça, comme aumônier de prison, là, j'ai senti que si je restais là-dedans, j'étais foutu. Je ne pouvais plus les écouter, ces messieurs, puisque c'était des hommes que j'allais écouter. Parce que eux, ils étaient en permanence, à la fois dans la culpabilité qu'on leur renvoyait en disant « Tu vois bien, tu as fait ça, c'est pas bien. » Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Bon. Et puis eux-mêmes, en train d'alimenter ce fond intérieur. Et je me suis dit, là, on pollue tout. On pollue tout parce qu'il n'y a plus de sortie possible. Il n'y a plus de manière de voir l'humain autrement que par ce biais-là. Et uniquement, tu as tué, tu es le tueur, tu es le meurtrier, tu es l'assassin, tu es le violeur, etc. Et tout se réduit à ça. C'est plus possible. C'est une pollution absolue.
Jean-François Rode.
Oui, j'ai été extrêmement frappé dans votre livre par la référence que vous faites justement à ce texte de la Genèse qu'on lit très très peu souvent, où Dieu se repent sa création. Là, vous avez des pages formidables auxquelles Christophe faisait allusion à l'instant. Moi, je pense que ça vaudrait le coup d'y revenir un petit peu. Parce que finalement, à un moment, Dieu dit je constate que l'homme ne pense qu'à faire le mal à longueur de journée. Et finalement... ça n'a pas été une bonne idée de faire la création. C'est vrai que c'est un texte qu'on ne lit pas souvent.
Jamais. Jamais. Moi, j'en ai jamais entendu.
Donc c'est avant Noé, avant le déluge.
Mais oui, tout à fait, juste avant.
Pour que tout le monde se souvienne de ça. Mais c'est vrai que ce texte-là, on n'en parle pas souvent.
C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Je n'ai jamais entendu aucune homélie sur le sujet. Bon. Or, en fait, que Dieu ait pu se dire, tiens, j'ai peut-être raté quelque chose, là. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait, quoi ? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait ? Parce que quand même, bon, l'homme, c'est vrai, il y a que des massacres, des machins, ça démarre très mal, Caïn, Abel, tout ça, bon, il pourrait se dire, bon. Eh bien, c'est exactement, comment dire, l'intuition qui m'est venue au moment où j'étais à la prison. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, l'humanité est pourrie, quoi. Ça n'arrête pas, on tue, on massacre, et puis alors on a de quoi faire, hein, autour de nous, on entend que ça, bon. Comme si on était capable que de ça, et on pourrait se dire, allez, on élimine tout, et on recommence. On va faire une espèce de grande lessive de tous ces hommes en prison, et puis ils vont devenir meilleurs, et puis on recommence tout. Mais non ! Quelles sont les conditions de notre humanité qui font que nous n'arrivons pas à mettre un peu plus de beau et de bien et de bon de notre côté ?
C'est-à-dire que chérir la plaie, ce serait la charité ?
Je ne sais pas si c'est chérir la plaie, mais en tout cas, ne pas la redouter. Mmh. Ne pas la redouter et la regarder comme quelque chose qui est partie intrinsèque de nous-mêmes. Je pense que Dieu qui repart, alors évidemment, il repart avec la figure de Noé, c'est le gentil Noé, bon, c'est vrai, hein. Bon, on pourrait, c'est le premier de la classe, un peu, dans un tas côté, bon, voilà. Mais les autres, ils sont méchants, puis lui, il est gentil, bon, d'accord. N'empêche qu'on repart avec un bon gars, voilà,
ouais.
Si je peux le dire comme ça.
C'est pas mal, quand même, un bon gars.
Oui, mais évidemment, en fait, mais évidemment, non, mais c'est fondamental.
Bah oui.
Mais il refait une alliance, et là, il va refaire alliance avec toute la création, ouais. Et animaux compris. Ouais. Ça non plus, on le dit jamais, alors je l'ai pas mis dans mon livre, mais on ne le dit jamais, ça. Les animaux, ça sert à aller manger, et puis c'est tout. Bon,
parce
voilà.
Qu'avant Noé, vous écrivez, on a une création au prix du sang.
Oui, on a une création au prix du sang.
C'est quand même une phrase terrible.
Oui, mais c'est une phrase que je crois que ça continue quand même, hein, d'une certaine façon.
Alors justement, vous revenez sur la tempête qui ravage l'Église dans le scandale de la pédocriminalité. Il y a la rencontre avec Malo qui a été abusé, ça ne passe pas, on le comprend. Irréparé, irréparable, impardonné, impardonnable.
Ah bah oui, il y a de l'impardonnable.
C'est la boussole, ça ?
Je sais pas si c'est la boussole, mais en tout cas, moi, je suis... Comment dire ? On m'a demandé un travail l'année dernière sur le pardon. Et en fait, j'ai attaqué la question du pardon, si j'ose dire, par l'impardonnable. C'est-à-dire par la limite du pardon.
Oui.
C'est-à-dire que je crois qu'on a une tendance catho quand même très forte. Tu sais, tu devrais pardonner, tu irais beaucoup mieux. Et puis le pardon, c'est l'amour suprême, etc. etc.
Ah, vous avez des phrases formidables qui polluent complètement les esprits. Tu devrais pardonner parce que tu es catho, Dieu nous pardonne, donc pourquoi tu n'es pas à l'image de Dieu puisque tu ne pardonnes pas,
ouais, exactement,
et
voilà.
Quand ça ne passe pas, alors on passe pour un pécheur.
Non seulement un pécheur, mais alors un pécheur qui n'a rien compris au christianisme.
Absolument.
Ah, absolument. Bon. Or, en fait, on se précipite sur le pardon comme la recette de, j'allais dire, de disparition de tous les maux. Alors qu'il y en a qui y arrivent à pardonner très bien. Bon. Mais je pense qu'il y a un terrain qui n'est plus pour nous. la cour est trop grande. Chacun son job, c'est le job de Dieu. Et je pense qu'il y a un moment où le pardon, c'est dans le cœur de Dieu, c'est pas dans le nôtre. Et je crois qu'il faut avoir aussi cette humilité, cette principe de réalité de ce que nous sommes et des limites qui nous, dans lesquelles nous naviguons, j'allais dire, malgré notre désir. Bon, le pardon, pour certaines choses, c'est à Dieu, c'est pas à moi, et je peux pas. Et d'y consentir, me paraît, est extrêmement important.
Les paroles effectivement très très fortes là-dessus. Et pour dire globalement, moi j'ai lu votre livre vraiment très très intensément avec beaucoup d'intérêt. Mais je suis sûr que je vais le relire parce que c'est pas qu'il soit difficile, mais il y a une telle charge d'humanité et de, on voit vraiment que vous savez ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Hein. Si. On voit bien que vous avez quand même fréquenté
ça. Beaucoup d'écoute.
Ah oui,
D'écoute, oui. Des milliers d'heures d'écoute qui sont au centre de l'humanité. Vous mentionnez l'horreur de la guerre, la barbarie en Ukraine, au Rwanda, puis les violeurs, les pointeurs en prison, la violence. Mais le bourreau, celui qui torture froidement, celui qui cloue le Christ, celui qui utilise des outils de torture, une perforeuse ou que sais-je, celui-là qui commet l'irréparable sciemment, qui est-il?
Alors moi, ce que je dis dans le livre, et ce à quoi je suis arrivé, c'est que je crois que c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il est quelqu'un. Voilà. Je pense qu'il n'y a personne. Et c'est justement la grande difficulté quand on rencontre des... J'en ai pas vu tant que ça, mais quand même quelques-uns à la prison, notamment les grands prédateurs, les grands tueurs en série. Il n'y a personne à l'intérieur. Il n'y a personne au sens que l'humanité, j'allais dire, un tout petit peu, tant soit-il, possible de rencontrer un peu de chaleur, un peu de... Voilà, il n'y a rien. Et je pense que ça devrait poser question beaucoup plus. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour permettre à des gens qui n'ont plus rien comme humanité de récupérer un minimum d'eux-mêmes? Je pense à ces enfants à qui on a obligé à tuer dans des guerres, etc., et qu'on continue d'obliger à tuer dans des guerres, à tous ceux qui aujourd'hui à Gaza ou ailleurs sont pris là-dedans, mais la haine déshumanisante dans laquelle ils vont être, ça va falloir quand même qu'on mesure ça. Hein. Ça dévaste tout, ça. Et ça dévaste tout, et ça vous vide de votre propre humanité. Et alors là, on va avoir affaire à des hommes, surtout des hommes, hein, qui vont être dans, j'allais dire, quasi des robots, quasi de la mécanique de la torture et du mal.
Oui.
Ça, c'est terrible, c'est terrible. Et j'en ai rencontré quelques-uns, leur regard n'est attaché à rien. Mm-hmm. Ils ne se posent rien, parce qu'il n'y a rien à l'intérieur qui pourrait faire dire, tiens, il y a quelqu'un qui me regarde.
Voilà. Sur la psychanalyse, vous avez des mots forts. Je vous cite Isabelle Le Bourgeois dans votre livre « Vivre avec l'irréparé » chez Albin Michel. Je vous cite. La plupart de ceux et celles qui entament un travail sur eux-mêmes désirent, plus ou moins inconsciemment, ne plus être encombrés par ce qui fait mal, rend honteux, empêche de vivre. À l'aube de leur travail, les éléments sont diffus, encore un nommé. Puis, au fur et à mesure, de façon plus claire, l'état du paysage intérieur est ce qui appelle à être consolé, apaisé, allégé. Pourtant, certains pensent que cela ne le sera jamais, risquant encore et toujours de confondre irréparé et irréparable. En quoi cette confusion sème le trouble?
C'est pour moi absolument fondamental. Je veux dire, je tue quelqu'un, c'est irréparable. Irréparable. Ah ben parce que souvent, on me disait, mais certains prisonniers, mais si j'avais pas fait, mais peut-être que si... Non, attendez, vous avez fait. Voilà. Bon, c'est irréparable. À partir de là, quelles conséquences il y a de cet acte-là? Eh bien, les conséquences, ça s'appelle l'irréparé. Voilà. C'est-à-dire tout ce qui... Tout ce que c'est irréparable a mis en route à l'intérieur de vous comme trouble, comme culpabilité, comme haine, comme tout ce qu'on veut, voilà, tout sentiment absolument énorme. Voilà, et bien tout ça, c'est de l'irréparé. Ce sont les traces de ce moment-là. Donc ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. L'irréparable reste irréparable, c'est-à-dire irrémédiable. Et le pire de tous les irréparables, c'est la mort. Voilà.
Vous dites nos peurs signent de l'irréparé en nous.
Oui.
Comment s'en débarrasser ou les contrôler?
Oh, les peurs, ça. On ne peut pas vivre sans peur. La peur, c'est nécessaire d'une certaine façon.
Hein, c'est un instinct de survie.
Ah, c'est un instinct de survie, je le dis. Bon. Mais en même temps, la peur, c'est aussi l'incapacité de rentrer dans une relation à l'autre qui soit suffisamment confiante pour qu'il se passe quelque chose. Et ça, je pense que cette crainte-là, elle est... On a peur de se faire avoir par l'autre. Hein. Mmh. On a peur que l'autre vous manipule, on a peur que l'autre vous prenne trop. Bon, mais quelquefois, on n'a pas suffisamment cette crainte et on se fait avoir.
Je reviens sur la culpabilité. C'est cette inflation de la culpabilité qui nous met en état de dette permanente. Et cette dette-là, c'est de l'irréparé en barre. Des siècles d'irréparé, des siècles où l'humain se trouve englué dans des dimensions psychiques et morales bien trop énormes pour lui. Le poids est trop lourd à porter, rendant difficile la marche, la respiration, la contemplation sereine du beau qui nous entoure. En un mot, la vie, tout simplement. C'est cette culpabilité qui nous pollue.
C'est...
Parce qu'elle a été quand même enseignée par l'Église.
Évidemment, mais c'est... Attendez. C'est un marché. La culpabilité. C'est un vrai marché, la confession.
Ouais.
Voilà. Bon, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon.
Tout à fait.
Alors, je voudrais quand même pas passer pour une iconoclaste absolue à votre micro de Radio Notre-Dame.
Vous dites que la confession aura été un lieu de perversion du message évangélique. Hein.
Mais absolument. Alors, pas toujours, heureusement, mais
bien
c'est
sûr.
un des grands lieux.
Ouais.
Et on le voit bien. Je veux dire, la mise à jour aujourd'hui, la mise au jour de tous les abus dans l'Église, on voit bien que c'est dans l'accompagnement spirituel et dans la confession des lieux de pouvoir, parce que l'autre se livre là où il est le plus fragile, là où il est le plus vulnérable, et que le pouvoir vient se mêler. Écoutez, madame, vous croyez pas quand même que vous l'avez pas un tout petit peu asticoté, ce prêtre, hein, à guichet, vous croyez pas? Et hop, c'est moi la fautive. C'est terrible.
Non, c'est mais terrible, c'est terrible.
C'est terrible parce que, comment dire, on vous retourne toujours quelque chose de ça. Et j'ai, alors heureusement, il y a des prêtres, il y a des gens dans l'Église qui ne font pas ça et qui ne vivent pas comme ça. Heureusement. N'empêche que, on est là-dedans très souvent. C'est la confession, elle se base quand même beaucoup là-dessus. Je te pardonne. Finalement, tes péchés, c'est-à-dire que t'es coupable, quoi. T'es coupable, mais je vais te pardonner. Tu seras plus coupable. Mais si, je suis encore coupable. Je serai toujours coupable. Parce qu'il y a quelque chose de ça qui traîne dans une théologie de l'Église. Alors, il y a des culpabilités. J'en sais rien, mais en tout cas, il y a des responsabilités. Ça, oui.
Isabelle Le Bourgeois, vous rappelez plusieurs fois dans votre livre que le but est d'aimer et d'être aimé. Il n'y a que cela qui compte. Mais alors, pour la personne abandonnée, comment doit-elle vivre au sein même de l'oubli?
Je pense que c'est peut-être... Vous voyez, il y a deux choses sur Terre qui sont nécessaires à ce que pour l'humain. Aimer, être aimé, et la sécurité. Mais la sécurité, j'allais dire physique, matérielle, etc. Bon. Mais à la limite, la plus grande des sécurités, c'est l'amour. Voilà. Et ça fait défaut à tellement de gens. On est complètement perdu quand on est très seul, pas relié, je dirais, à d'autres de façon valorisante, de façon minimum valorisante, de reconnaissance de qui nous sommes. Que quelqu'un nous dise « je t'aime », quelle que soit la nature de ce « je t'aime », je veux dire, que ce soit dans un couple, que ce soit entre amis, que ce soit enfin, d'un enfant à un parent, etc., peu importe. Hein. Mais ce « je t'aime-là », dont on nous dit que Dieu nous le réserve tellement, mais qui y croit vraiment à ce « je t'aime » de Dieu. Parce que pour croire au « je t'aime » de Dieu, il faut avoir un minimum d'expérience quand même du « je t'aime » humain. Est-ce que je crois qu'on m'aime? Je suis vraiment tellement frappé. Bon, je donne beaucoup de sessions à des religieux de toutes sortes. Bon, ou à des prêtres, enfin des futurs prêtres plus exactement. Et toujours ce thème-là revient comme une nécessité et comme un lieu de blessure et de vulnérabilité. Considérable. Ne pas être suffisamment aimé rend vulnérable.
Dieu peut sûrement tout, mais dans le quotidien de nos vies, il est loin de le mettre en acte.
Oh ben oui.
Et là, j'ai mis dans la marche. Et la providence?
Oui. Alors, mais justement, ça, c'est du gratuit. Je veux dire, je la décide pas.
Ouais.
C'est pas moi qui décide ça. C'est lui. Je veux dire, là aussi, moi, je dis toujours chacun son job. J'adore ça, parce que la prière, par exemple, ça sert à rien, la prière, au sens, un tournevis sert à quelque chose, voilà, une casserole sert à, voilà. La prière, ça sert pas dans ce sens. La prière sert, si j'ose dire, est utile dans la mesure où elle dépose devant Dieu, j'allais dire, les éléments d'une question. Mais après, chacun son job, c'est lui qui fait. La communion des saints, voilà, tout ça, bon, j'en parle. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Je ne prie pas en disant à Dieu, bon, dis donc, eh oh, il me faut un frigidaire demain. Hein?
Non.
Ou bien, il faudrait qu'un tel puisse réussir son examen. Ou le... Bon, c'est pas ma foi, moi, elle n'est pas là-dedans. Ma foi, c'est, je transmets à Dieu le message, c'est lui qui fait le job.
Chacun son job. Quand vous parlez des prêtres... Je l'ai souvent vérifié, écrivez-vous, le sacerdoce ne donne pas automatiquement le don de l'écoute et de l'empathie, contrairement à ce que beaucoup peuvent encore penser. Quand il y a prise de parole à la place de l'autre, prétention à savoir pour lui, intrusion dans l'intimité, prise quelconque de pouvoir, il y a faute professionnelle.
Absolument.
Et là, vous êtes très très ferme, très très ferme.
Absolument, ferme sur les prix, là. Absolument, ferme sur les prix, parce que c'est... Je veux dire, là aussi, c'est une manière de dire aux gens, attention, prévention des abus, là. Hein. Mmh. Quand vous sentez que quelqu'un vous écoute en vous donnant des conseils, en vous disant à votre place ce qu'il pense qu'il faut, voudriez faire, etc., etc., faites attention, voilà. Attention au danger. Et quand je dis à Dieu ce qu'il doit faire, attention au danger.
Vivre avec l'irréparé, Isabelle Le Bourgeois, c'est publié chez Albin Michel. Jean-François Roth, qu'est-ce qu'on va aller voler sur les tables de la procure?
On n'a pas le droit de voler, c'est un commandement de Dieu. Et par contre, on peut trouver de bons livres, en plus de celui d'Isabelle Le Bourgeois. Par exemple, je signale un livre aux éditions du Cercle qui s'appelle « Il renverse les puissants. Portrait de chrétiens contestataires ». C'est de Jean-Baptiste Jean, je ne sais pas si on se prononce bien, Mathias Pétel, Timothée de Roglaudre. Il renverse les puissants portraits de chrétiens contestataires. On sait qu'en général, les révolutionnaires se méfient énormément des chrétiens, et en particulier de l'Église en général, et que l'Église se méfie en général aussi beaucoup des révolutionnaires. Bon, ça n'empêche pas un certain nombre de chrétiens, au nom de leur foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, d'être justement des contestataires sociaux. Et ce petit livre... Il n'y en a pas tellement que ça dans les parutions récentes.
Donc c'est on parle d'Isabelle Le Bourgeois dedans ou pas?
C'est pour ça que je le signale. Je le signale parce qu'il cite un certain nombre de gens qu'on connaît bien et d'autres qu'on connaît beaucoup moins. Dorothy Day, Gustavo Gutiérrez, Illich, Ivan Illich, Emmanuel Mounier, etc. Desmond Tutu, Simone Veil, Joseph Brzezinski, mais un certain nombre d'autres aussi. Alun Diop, par exemple, un Sénégalais.
Alors on raconte leur vie.
On raconte en fait leur combat au nom de leur foi. Ils ont mis en cause l'ordre, le désordre social, hein, pour parler non pas l'ordre existant qui est un désordre. Ouais. Et c'est intéressant de replonger dans cette question très différente, dans les contextes tout à fait différents. Mais c'est intéressant de se rappeler qu'il y a un certain nombre de gens qui sont révolutionnaires. Au nom du christianisme, c'est pas quelque chose qu'on entend si souvent que ça aujourd'hui. Donc ça s'appelle Il renverse les puissants. Mm-hmm. C'est magnificat. Hein. Il renverse les puissants au cerf, portrait de chrétiens contestataires. Et puis, alors, plus facile, plus pour terminer sur une chose un peu plus. Il y a un père Didon, inspirateur des Jeux Olympiques. Yvon Tranvouèze a fait un livre qui s'appelle Plus vite, plus haut, plus fort, consacré donc à ce père Didon. C'est lui qui a inventé la devise des Jeux Olympiques. J'en parle parce qu'évidemment...
C'était le confesseur de Coubertin ?
Eh bien, en fait, il connaissait Pierre de Coubertin. Ouais. Il avait donné cette devise au club de sport qu'il avait fondé en tant que dominicain. Et Pierre de Coubertin a dit, ben ça c'est très bien, il l'a pris comme devise des Jeux Olympiques.
Et c'est une trinité.
Mais Père Didon était aussi, c'était un prédicateur très célèbre, c'était aussi quelqu'un de très démocrate, vraiment sincère, très engagé, et il a fait une vie de Jésus qui a eu un très gros succès. Enfin, c'est, voilà, un personnage qu'on connaît plus très bien, sûrement même pas beaucoup, hein, le Père Didon, un dominicain, qui mérite peut-être d'être connu. Donc, Yvan...
Merci Jean-François Roth pour ces lectures que nous pourrons apporter pour ce long week-end de l'Ascension. Merci infiniment Isabelle Le Bourgeois pour ce « Vivre avec l'irréparé » publié chez Albin Michel. C'est un livre, comme l'a dit Jean-François, qu'on lit et qu'on a envie de relire. Merci Guillaume Nougaret pour la réalisation, et puis François Dieudonné, Camille Meyer, Philippe Malpeuch, Faustine pour la réussite technique de notre entretien. Alors demain, c'est vendredi, nous irons au théâtre et nous parlerons naturellement des Molières. Je vous souhaite un joli jeudi de l'Ascension, peut-être un long week-end ensoleillé, peut-être en Normandie, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous embrasse.